Spinoza, Traité politique, chapitre 3, paragraphe 1. Le statut d'un État, quel qu'il soit, est appelé civil, le corps entier, cité, et les affaires communes de l'État, soumises à la direction de celui qui a le pouvoir, chose publique. Nous appelons citoyens les hommes considérés comme jouissant de tous les avantages que procure la cité en vertu du droit civil. Nous les appelons sujets en tant qu'ils sont tenus d'obéir aux règles instituées par la cité, c'est-à-dire à ses lois. Nous avons dit enfin, dans le paragraphe 17 du chapitre précédent, qu'il y avait trois genres de statut civil, le démocratique, l'aristocratique, et le monarchie. Mais avant que je commence de traiter de chacun séparément, je vais d'abord démontrer ce qui concerne le statut civil en général et ce qu'il faut considérer ici avant tout, c'est le droit suprême de la cité, c'est-à-dire celui du souverain. Il apparaît, d'après le paragraphe 15 du chapitre précédent, que le droit de celui qui a le pouvoir public, c'est-à-dire du souverain, n'est autre chose que le droit de nature, lequel se définit par la puissance, non de chacun des citoyens pris à part, mais de la masse conduite en quelque sorte par une même pensée. Cela revient à dire que le corps et l'âme de l'État tout entier a un droit qui a pour mesure sa puissance, comme on a vu que c'était le cas pour l'individu dans l'État de nature. Chaque citoyen ou sujet a donc d'autant moins de droits que la cité l'emporte sur lui en puissance, voir le paragraphe 16 du chapitre précédent. Et en conséquence, chaque citoyen ne peut rien faire ni posséder, suivant le droit civil, que ce qu'il peut revendiquer en vertu d'un décret de la cité. Paragraphe 3. Si la cité accorde à quelqu'un le droit et par suite le pouvoir, car autrement, d'après le paragraphe 12 du chapitre précédent, elle ne lui aurait donné que des paroles, de vivre selon sa propre complexion, elle se dessaisit de son propre droit et le transfère à celui à qui elle donne ce pouvoir. Si elle donne ce pouvoir à deux personnes ou à plusieurs, elle divise par cela même l'État. Chacun de ceux à qui le pouvoir a été donné, vivant selon sa propre complexion. Si enfin elle donne ce pouvoir à chacun d'entre les citoyens, elle se détruit elle-même. La cité n'existe plus et l'on revient à l'état de nature. Tout cela est très manifeste par ce qui précède, et par suite, on ne peut en aucune façon concevoir que la règle de la cité permettent à chaque citoyen de vivre selon sa propre complexion. Ce droit naturel, par lequel chacun est juge de lui-même, disparaît donc nécessairement dans l'état civil. Je dis expressément la règle de la cité, car le droit naturel de chacun, si nous pesons bien les choses, ne cesse pas d'exister dans l'état civil. L'homme, en effet, aussi bien dans l'état naturel que dans l'état civil, agit selon les lois de sa nature et veille à ses intérêts, car dans chacun de ces deux états, c'est l'espérance ou la crainte qui le conduit à faire ou à ne pas faire ceci ou cela, et la principale différence entre les deux états est que dans l'état civil, tous ont les mêmes craintes et que la sécurité a pour tous les mêmes causes, de même que la règle de vie est commune, ce qui ne supprime pas, tant s'en faut, la faculté de juger propre à chacun. Qui a décidé en effet d'obéir à toutes les injonctions de la cité, soit qu'il redoute sa puissance, soit qu'il aime la tranquillité, veille à sa propre sécurité et à ses intérêts, suivant sa complexion. Paragraphe 4. Nous ne pouvons en outre concevoir qu'il soit permis à chacun d'interpréter les décrets de la cité, c'est-à-dire ses lois. S'il avait cette licence, il serait en effet son propre juge. Il n'y aurait point d'acte accompli par lui qu'il ne pourrait rendre excusable ou louable avec une apparence de droit, et conséquemment, il réglerait sa vie selon sa complexion, ce qui, par le paragraphe précédent, est absurde. Paragraphe 5. Nous voyons donc que chaque citoyen relève non de lui-même, mais de la cité, aux injonctions de laquelle il est tenu d'obéir, et que nul n'a le droit de décider ce qui est juste, ce qui est injuste, ce qui est moral ou immoral, mais au contraire, puisque le corps de l'État doit être conduit en quelque sorte par une seule pensée, et qu'en conséquence, la volonté de la cité doit être tenue la volonté de tous, c'est ce que la cité décrète qui est juste et bon, que chacun doit aussi décréter tel. Si donc le sujet juge inique les décrets de la cité, il est néanmoins tenu de s'y soumettre. Paragraphe 6. Mais peut-on objecter, n'est-il pas contraire à l'injonction de la raison de se soumettre entièrement au jugement d'un autre? L'état civil serait donc contraire à la raison. D'où cette conséquence qu'étant irrationnel, cet état ne peut être constitué que par des hommes privés de raison, non du tout par ceux qui vivent sous la conduite de la raison. Mais puisque la raison n'enseigne rien qui soit contre la nature, une raison saine ne peut commander que chacun relève seulement de lui-même aussi longtemps que les hommes seront sujets aux passions. Paragraphe 15 du chapitre précédent, c'est-à-dire, par le paragraphe 5 du chapitre 1er, ni que cela puisse être. Il faut ajouter que la raison enseigne d'une manière générale à chercher la paix, et il est impossible d'y parvenir si les lois communes de la cité ne demeurent pas inviolées. Par suite, plus un homme vit sous la conduite de la raison, c'est-à-dire, suivant le paragraphe 11 du chapitre précédent, plus il est libre, plus constamment il observera les lois de la cité et se conformera aux injonctions du souverain dont il est le sujet. À cela s'ajoute encore que l'état civil est institué naturellement pour mettre fin à une crainte commune et écarter de communes misères, et que par suite, il vise le but que tout homme vivant sous la conduite de la raison s'efforcerait, mais vainement, par le paragraphe 15 du chapitre précédent, d'atteindre. C'est pourquoi, si un homme conduit par la raison doit faire parfois, par le commandement de la cité, ce qu'il sait être contraire à la raison, ce mal est largement compensé par le profit qu'il tire de l'état civil. Cela même est aussi de la raison entre deux mots de choisir le moindre. Nous pouvons donc conclure que personne n'agira jamais contrairement aux prescriptions de la raison en faisant ce que d'après la loi de la cité il doit faire. On nous l'accordera plus facilement quand nous aurons expliqué jusqu'où s'étend la puissance de la cité et conséquemment son droit. Paragraphe 7. Il faut considérer en premier lieu que si, dans l'état de nature, paragraphe 11 du chapitre précédent, celui-là a le plus de pouvoir et relève le plus de lui-même, qui vit sous la conduite de la raison, de même aussi, la cité fondée sur la raison et dirigée par elle est celle qui est la plus puissante et relève le plus d'elle-même. Le droit de la cité, en effet, est définie par la puissance de la masse qui est conduite en quelque sorte par une même pensée. Et cette union des âmes ne peut se concevoir en aucune façon si la cité ne tend éminemment au but que la saine raison enseigne à tous les hommes qu'il leur est utile d'atteindre. paragraphe 8. Il faut considérer, en deuxième lieu, que les sujets relèvent non d'eux-mêmes, mais de la cité, dans la mesure où ils redoutent la puissance ou les menaces qu'elle suspend sur eux, ou bien dans la mesure où ils aiment l'état civil. Paragraphe 10 du chapitre précédent. De là, cette conséquence que toutes les actions auxquelles nul ne peut être incité ni par promesse ni par menace sont en dehors des voies de la cité. Nul, par exemple, ne peut se dessaisir de sa faculté de juger. Par quelle promesse ou par quelle menace un homme pourrait-il être amené à croire que le tout n'est pas plus grand que la partie, ou que Dieu n'existe pas, ou qu'un corps qu'il voit qui est fini est un être infini? D'une manière générale, comment pourrait-il être amené à croire ce qui est contraire à ce qu'il sent ou pense? De même, par quelle promesse ou quelle menace un homme pourrait-il être amené à aimer ce qu'il est ou à haïr ce qu'il aime? Et il faut en dire autant de tout ce dont la nature humaine a horreur, à ce point qu'elle le juge pire que tous les maux. Qu'un homme porte témoignage contre lui-même, se mette lui-même au supplice, tue son père et sa mère, ne s'efforce pas d'éviter la mort, et autres choses semblables auxquelles ni promesses ni menaces ne peuvent amener personne. Que si cependant l'on voulait dire que la cité a le droit ou le pouvoir de commander de telles choses, ce serait à nos yeux comme si l'on disait qu'un homme a le droit d'être insensé ou de délirer. Que serait-ce en effet sinon un délire que cette loi à laquelle nul ne peut être astreint? Je parle ici expressément des choses qui ne peuvent pas être du droit de la cité, et dont la nature humaine a généralement horreur. Qu'un insensé ou un dément ne puisse être amené par aucune promesse et par aucune menace à obéir à des commandements, et que l'un ou l'autre, parce qu'il est soumis à telle ou telle religion, juge que les lois de l'État sont pires que tout mal, ces lois ne sont point abolies par là, puisque la plupart des citoyens leur sont soumis. Par suite, ceux qui n'ont ni crainte, ni espoir, ne relève que d'eux-mêmes, par le paragraphe 10 du chapitre précédent. Et ils sont, par le paragraphe 14 du chapitre précédent, des ennemis de l'État auxquels on a le droit d'opposer une contrainte. Paragraphe 9. Il faut considérer, en troisième et dernier lieu, une mesure provoquant l'indignation générale a peu de rapport avec le droit de la cité. Certainement, en effet, obéissant à la nature, les hommes se ligueront contre elle, soit en raison d'une crainte commune, soit par désir de tirer vengeance de quelque mal commun. Et, puisque le droit de la cité se définit par la puissance commune de la masse, il est certain que la puissance et le droit de la cité sont amoindris puisqu'ils donnent des raisons de former une ligue. La cité a certainement des dangers à craindre, tout de même que, dans l'état de nature, un homme relève d'autant moins de lui-même qu'il a plus de raisons de craindre, la cité, elle aussi, s'appartient d'autant moins qu'elle a plus à redouter. Voilà pour ce qui concerne le droit du souverain sur les sujets. Avant de parler maintenant de son droit sur l'étranger, il semble que nous devions résoudre une question qu'on a coutume de poser au sujet de la religion. Paragraphe 10. On pourrait en effet nous faire cette objection. L'état civil et l'obéissance des sujets, tel que nous avons montré que l'exige l'état civil, ne supprime-t-il pas la religion qui nous oblige au culte de Dieu? Mais si nous examinons ce point, nous ne trouvons rien qui puisse inquiéter. L'âme, en effet, dans la mesure où elle use de la raison, ne relève point du souverain mais d'elle-même, par le paragraphe 11 du chapitre précédent. Et ainsi, la connaissance vraie et l'amour de Dieu ne peuvent être soumis à l'empire de personne, non plus que la charité envers le prochain, paragraphe 8 de ce chapitre. Si nous considérons en outre que l'exercice suprême de la charité est celui qui vise au maintien de la paix et à l'établissement de la concorde, nous ne mettrons pas en doute que celui-là s'acquitte réellement de son office qui donne assistance à chacun autant que le permettent les lois de la cité, c'est-à-dire la concorde et l'ordre public. Pour ce qui concerne le culte extérieur, il est certain qu'il n'aide en rien à la connaissance vraie de Dieu et à l'amour qui en est la suite nécessaire, mais qu'au contraire, il peut leur nuire. Il ne faut donc pas mettre ce culte à un tel prix que la paix et l'ordre public puissent être troublés à cause de lui. Il est d'ailleurs certain que je ne suis pas, par droit de nature, c'est-à-dire suivant le paragraphe 3 du chapitre précédent, en vertu d'un décret divin, le défenseur de la religion, car je n'ai pas du tout le pouvoir qu'ont eu autrefois les disciples du Christ de chasser les esprits immondes et de faire des miracles. Et ce pouvoir serait pour propager la religion là où elle est interdite, si nécessaire que sans lui, non seulement on perd, comme on dit, son huile et sa peine, mais qu'en outre, on produit bien des maux. Tous les siècles fournissent des exemples de ces excès funestes. Chacun donc, où qu'il soit, peut honorer Dieu d'une religion véritable et veiller à son propre salut, ce qui est l'office du simple particulier. Quant au soin de propager la religion, il faut s'en remettre à Dieu ou au souverain, à qui seul appartient de s'occuper de la chose publique. Je reviens à mon propos. Paragraphe 11. Après avoir expliqué le droit du souverain sur les citoyens et l'office des sujets, il reste à considérer le droit du souverain sur l'étranger, ce qui se connaît aisément par les considérations qui précèdent. Puisqu'en effet, par le paragraphe 2 de ce chapitre, le droit du souverain n'est rien d'autre que le droit même de la nature, deux États sont l'un à l'égard de l'autre comme deux hommes à l'état de nature, à cela près que la cité peut se garder elle-même contre l'oppression d'une autre cité, chose dont l'homme à l'état de nature est incapable, accablé comme il l'est quotidiennement par le sommeil, souvent par une maladie du corps ou de l'âme, et enfin par la vieillesse, exposé en outre à d'autres maux contre lesquels la cité peut s'assurer. Paragraphe 12. La cité, donc, est maîtresse d'elle-même, dans la mesure où elle peut veiller sur elle-même et se garder de l'oppression, paragraphes 9 et 15 du chapitre précédent. Et elle dépend d'autrui, paragraphes 10 et 15 du chapitre précédent, dans la mesure où elle redoute la puissance d'une autre cité, ou est empêchée par cette autre cité de faire ce qu'elle veut, ou enfin a besoin du secours de cette autre cité pour se conserver et s'accroître. Il n'est pas douteux, en effet, que si ces deux cités veulent se prêter l'une à l'autre un secours mutuel, elles n'aient à elles deux plus de pouvoir, et par la suite plus de droit que l'une ou l'autre n'en a seule. Voir le paragraphe 13 du chapitre précédent. Paragraphe 13. Cela peut se connaître plus clairement en considérant que deux cités sont naturellement ennemies. Les hommes, en effet, suivant le paragraphe 14 du chapitre précédent, à l'état de nature sont ennemis. Ceux donc qui, en dehors de la cité, conservent le droit de nature, demeurent ennemis. Si, par suite, une cité veut faire la guerre à une autre et recourir aux moyens extrêmes pour la mettre sous sa dépendance, elle a le droit de le tenter, puisque pour faire la guerre, il lui suffit d'en avoir la volonté. Au contraire, il n'est pas possible de décider de la paix sinon avec le concours et la volonté de l'autre cité. De là cette conséquence que le droit de la guerre appartient à chaque cité et qu'au contraire, pour fixer le droit de la paix, il faut au moins deux cités qui seront dites liées par un traité ou confédérées. Paragraphe 14. Ce traité subsiste aussi longtemps que la cause qui en a déterminé l'établissement, c'est-à-dire la crainte d'un mal ou l'espoir d'un profit, subsiste elle-même. Si cette cause cesse d'agir sur l'une ou l'autre des deux cités, elle garde le droit qui lui appartient par le paragraphe 10 du chapitre précédent, et le lien qui attachait les cités l'une à l'autre est rompu de lui-même. Chaque cité a donc le droit absolu de rompre le traité quand elle le veut, et l'on ne peut dire qu'elle agisse par ruse et avec perfidie parce qu'elle rompt son engagement sitôt qu'elle n'a plus de raison, de craindre ou d'espérer. La condition est en effet la même pour chacun des contractants. La première qui sera délivrée de la crainte deviendra indépendante et en conséquence suivra la vie qui lui conviendra le mieux. De plus, nul ne contracte en vue de l'avenir qu'en ayant égard aux circonstances présentes et, si ces circonstances viennent à changer, la situation elle-même est toute changée. Pour cette raison, chacune des cités liées par un traité conserve le droit de pourvoir à ses intérêts, chacune, en conséquence, s'efforce autant qu'elle le peut de se délivrer de la crainte et de reprendre son indépendance, et aussi d'empêcher que l'autre ne devienne plus puissante. Si donc une cité se plaint d'avoir été trompée, ce n'est pas la loi de la cité confédérée, mais bien sa propre sottise qu'elle peut condamner. Elle s'est remise de son salut à une autre cité indépendante et pour qui le salut de l'État est la loi suprême. Paragraphe 15. Les cités qui sont convenues de la paix l'une avec l'autre ont le droit de régler les litiges qui peuvent s'élever au sujet des conditions de la paix, c'est-à-dire des stipulations par lesquelles elles se sont engagées l'une envers l'autre. En effet, les règles posées en vue de la paix ne concernent pas l'une seulement, mais sont communes à toutes les cités contractantes, par le paragraphe 13 de ce chapitre. Si elles ne peuvent pas s'accorder, par cela même, elles reviennent à l'état de guerre. Paragraphe 16. Plus il y a de cités qui conviennent de la paix, moins chacune d'elles est redoutable aux autres. C'est-à-dire, par le paragraphe 13 de ce chapitre, moins elle est indépendante et plus elle est obligée de se plier à la volonté commune des cités liées par le traité. Paragraphe 17. La foi que la saine raison et la religion prescrivent d'observer n'est d'ailleurs nullement en question ici, car ni la raison ni l'écriture n'ordonnent que l'on observe tout engagement pris. Si j'ai promis à quelqu'un, par exemple, de garder l'argent qu'il m'a confié secrètement, je ne suis pas tenue de demeurer fidèle à mon engagement si je sais ou crois savoir que le dépôt qu'il m'a confié était le produit d'un vol. J'agirai plus droitement en faisant en sorte que ce dépôt revienne au propriétaire légitime. De même, si un souverain a promis de faire pour un autre, quoi que ce soit, et qu'ensuite les circonstances ou la raison semblent montrer que cela est nuisible au salut commun des sujets, il est obligé de rompre l'engagement qu'il a pris, puisque l'Écriture ne prescrit qu'en général d'observer la foi promise et laisse au jugement de chacun les cas particuliers à excepter, elle ne prescrit donc rien qui soit contraire aux prescriptions énoncées ci-dessus. Paragraphe 18. Pour ne pas être obligé de rompre à chaque instant le fil du discours, et pour écarter des objections semblables qu'on pourrait me faire par la suite, j'avertis que j'ai établi tout cela en me fondant sur la nécessité de la nature humaine, de quelque façon qu'on la considère. Je pars, en effet, de l'effort universel que font tous les hommes pour se conserver, effort qu'ils font également, qu'ils soient sages ou insensés. De quelque façon que l'on considère les hommes, qu'ils soient conduits par une affection ou par la raison, la conclusion sera donc la même, puisque la démonstration, nous venons de le dire, est universelle.
Chapitre 4. Paragraphe 1. Nous avons montré dans le chapitre précédent que le droit du souverain, qui n'a d'autre limite que sa puissance, consiste principalement en ce qu'il y a une pensée qu'on peut dire être celle du pouvoir public, sur laquelle tous doivent se régler, qui seule détermine le bien, le mal, le juste, l'injuste, c'est-à-dire ce que tous, pris à part ou réunis, doivent faire ou ne pas faire. Nous voyons par là qu'au souverain seul appartient d'établir des lois, et quand une question se pose à leur sujet, de les interpréter dans chaque cas particulier, et de décider si une espèce donnée est contraire ou conforme au droit. Voir les paragraphes 3, 4, 5 du chapitre précédent. C'est au souverain de déclarer la guerre, de fixer ou de proposer des conditions de paix, ou encore d'accepter celles qui sont offertes. Voir paragraphes 12 et 13 du chapitre précédent. Paragraphe 2. Comme ce sont là, avec les moyens requis pour parvenir à ces fins, toutes choses qui concernent les affaires de l'État, c'est-à-dire la chose publique, il en résulte que la chose publique est uniquement dépendante de la direction donnée par celui qui a le pouvoir souverain. Par suite, seul le souverain a le droit de porter un jugement sur les actes d'un chacun, de lui demander des comptes, de frapper les délinquants d'une peine, de régler les différends entre citoyens, ou de désigner des hommes versés dans la connaissance des lois pour administrer ce service à sa place. De même, en ce qui concerne l'emploi et l'ordination des voies et moyens propres à la paix ou à la guerre, fondation et protection des villes, conduite des troupes, distribution des offices militaires, commandement à donner, envoi de délégués pour traiter de la paix, ou audience donnée aux délégués étrangers, et enfin, prélèvement nécessaire pour subvenir à toutes les dépenses publiques. Paragraphe 3. Puisqu'au seul souverain, il appartient de traiter des affaires publiques ou de choisir des fonctionnaires à cet effet, il en résulte qu'un sujet usurpe le pouvoir quand, de son propre jugement, à l'insu de l'autorité suprême, il s'occupe d'une affaire publique, alors même qu'il a cru agir pour le bien de la cité. Paragraphe 4. On a coutume, cependant, de demander si le souverain est lié par les lois et si, en conséquence, il peut pécher. Puisque, cependant, les mots de loi et de péché ne s'appliquent pas seulement à la législation de la cité, mais aux lois communes de toute nature, et qu'il y a lieu d'avoir égard avant tout aux règles que pose la raison, nous ne pouvons dire absolument parlant que la cité n'est liée par aucune loi et ne peut pécher. Si, en effet, la cité n'avait ni loi ni règles, non pas même celles sans lesquelles elle ne serait pas une cité. Il faudrait voir en elle non une chose appartenant à la nature, mais une chimère. La cité pêche donc, quand elle agit ou permet d'agir, de telle façon que sa propre ruine puisse être la conséquence des actes accomplis. Nous dirons alors qu'elle pêche dans le sens où les philosophes et aussi les médecins disent que la nature peut pécher, ce qui signifie que la cité pêche quand elle agit contrairement au commandement de la raison. C'est surtout en effet quand elle se conforme au commandement de la raison, par le paragraphe 7 du chapitre précédent, que la cité est maîtresse d'elle-même. Lors donc qu'elle agit contrairement à la raison, et dans la mesure où elle le fait, elle se manque à elle-même, et on peut dire qu'elle pêche. Cela se connaîtra plus clairement si l'on considère qu'en disant que chacun peut statuer sur une affaire qui est de son ressort et décider comme il le veut. Ce pouvoir que nous avons en vue doit se mesurer non seulement par la puissance de l'agent, mais aussi par les facilités qu'offre le patient. Si, par exemple, je dis que j'ai le droit de faire de cette table ce que je voudrais, je n'entends certes point par là que cette table mange de l'herbe. De même, aussi, bien que nous disions que les hommes dépendent non d'eux-mêmes mais de la cité, nous n'entendrons point par là que les hommes puissent perdre leur nature humaine et en revêtir une autre. Nous n'entendons point par suite que la cité ait le droit de faire que les hommes aient des ailes pour voler, ou, ce qui est tout aussi impossible, qu'ils considèrent avec respect ce qui excite le rire ou le dégoût. Nous entendons qu'alors que certaines conditions étant données, la cité inspire au sujet crainte et respect, si ces mêmes conditions cessent d'être données, il n'y ait plus crainte ni respect, de sorte que la cité elle-même cesse d'exister. Donc, la cité, pour rester maîtresse d'elle-même, est tenue de maintenir les causes de crainte et de respect, sans quoi elle n'est plus une cité. À celui ou à ceux qui détiennent le pouvoir public, il est donc également impossible de se produire en état d'ébriété ou de nudité avec des prostituées, de faire l'histrion, de violer ou de mépriser ouvertement les lois établies par eux-mêmes et, tout en agissant ainsi, de conserver leur majesté. Cela leur est tout aussi impossible que d'être et en même temps de ne pas être. Mettre à mort les sujets, les dépouiller, user de violence contre les vierges et autres choses semblables, c'est changer la crainte en indignation et conséquemment l'état civil en état de guerre. Paragraphe 5. Nous voyons donc en quel sens on peut dire que la cité est soumise aux lois et peut pécher. Si par loi on entend la législation civile, ce qui peut être revendiqué en vertu de cette législation, et par péché ce qu'elle interdit, c'est-à-dire, si nous prenons ces mots au sens propre, nous ne pouvons dire, en aucune façon, que la cité soit tenue par les lois ou puisse pécher. Les règles que la cité est, dans son propre intérêt, tenue d'observer, et les causes qui produisent la crainte et le respect, n'appartiennent pas à la législation civile, mais au droit naturel, puisque, par le paragraphe précédent, ce n'est point en se référant au droit civil, mais au droit de la guerre, que ces choses peuvent être revendiquées. La cité n'admet dans son pouvoir d'autres limites que celles que l'homme observe à l'état de nature pour rester son propre maître ou ne pas agir en ennemi de lui-même, ne pas se détruire. L'observation de cette limite n'est point de l'obéissance, c'est au contraire la liberté de la nature humaine. Quant à la législation civile, elle dépend du seul décret de la cité. Et la cité, pour demeurer, n'a à complaire à personne qu'à elle-même. Il n'y a pour elle d'autre bien ou d'autre mal que ce qu'elle décrète être pour elle-même un bien ou un mal. Et par suite, elle n'a pas seulement le droit de se défendre, d'établir et d'interpréter les lois, mais aussi de les abroger, et, en vertu de son plein pouvoir, de pardonner à un accusé, quel qu'il soit. Paragraphe 6. Il n'est pas douteux que les contrats ou les lois, par quoi la multitude transfère son droit à un conseil ou à un homme, doivent être violés quand cette violation importe à l'intérêt commun. Mais ce n'est à aucun particulier qu'il appartient d'en juger, c'est-à-dire de décider s'il est de l'intérêt commun de violer les lois établies ou non. Celui-là seul qui détient le pouvoir public peut, par le paragraphe 3 de ce chapitre, en juger. Ainsi, suivant le droit civil, seul celui qui détient le pouvoir public peut interpréter les lois. À cela s'ajoute qu'aucun particulier n'a le droit d'agir en défenseur des lois. Par suite, en réalité, les lois n'obligent pas celui qui détient le pouvoir. Que si, cependant, ces lois sont de telle nature qu'elles ne puissent être violées, sans que la cité par cela même en soit affaiblie, c'est-à-dire que la crainte éprouvée en commun par le plus grand nombre des citoyens se transforme en indignation, par cela même, la cité est dissoute et la loi suspendue. Ce n'est donc plus conformément au droit civil, mais en vertu du droit de la guerre qu'elle est défendue. Et ainsi, le détenteur du pouvoir n'est tenu d'observer les conditions du contrat pour aucune autre raison, sinon celle qu'a l'homme à l'état de nature de se garder de devenir son propre ennemi, c'est-à-dire de se détruire lui-même, comme nous l'avons dit au paragraphe précédent. Chapitre 5. Paragraphe 1. Dans le paragraphe 11 du chapitre 2, nous avons montré qu'un homme est son propre maître, alors surtout qu'il vit le plus sous la conduite de la raison. Et en conséquence, voir paragraphe 7, chapitre 3, que cette cité est la plus puissante et la plus maîtresse d'elle-même, qui est fondée et gouvernée selon la raison. Puis donc que la meilleure règle de vie, pour se conserver soi-même autant qu'il se peut, et celle qui est instituée suivant les prescriptions de la raison, il en résulte que tout le meilleur que fait soit un homme, soit une cité, est ce qu'il fait en tant qu'il est le plus complètement son propre maître. Ce n'est pas en effet tout ce que nous disons qu'on a le droit de faire que nous affirmerons être le meilleur. Autre chose est de cultiver un champ en vertu d'un droit, autre chose de cultiver ce champ le mieux possible. Autre chose, dis-je, est de se défendre, de se conserver, de juger en vertu de son droit. Autre chose, de se défendre, de se conserver et de juger le mieux possible. En conséquence, autre chose est de commander en vertu de son droit et d'avoir la charge des affaires publiques. Autre chose et de commander le mieux possible, et de gouverner le mieux possible la chose publique. Ayant ainsi traité en général du droit de toute cité, il est temps maintenant de traiter du régime le meilleur en un état quelconque. Paragraphe 2. L'on connaît facilement quelle est la condition d'un état quelconque en considérant la fin en vue de laquelle un état civil se fonde. Cette fin n'est autre que la paix et la sécurité de la vie. Par suite, le gouvernement le meilleur est celui sous lequel les hommes passent leur vie dans la concorde, et celui dont les lois sont observées sans violation. Il est certain en effet que les séditions, les guerres et le mépris ou la violation des lois sont imputables non tant à la malice des sujets qu'à un vice du régime institué. Les hommes, en effet, ne naissent pas citoyens, mais le deviennent. Les actions naturelles qui se rencontrent sont en outre les mêmes en tout pays. Si donc une malice plus grande règne dans une cité, et s'il s'y commet des péchés en plus grand nombre que dans d'autres, cela provient de ce qu'elle n'a pas assez pourvu à la concorde, que ses institutions ne sont pas assez prudentes, et qu'elle n'a pas, en conséquence, établi absolument un droit civil. Un état civil, en effet, qui n'a pas supprimé les causes de sédition, et où la guerre est constamment à craindre, où les lois sont fréquemment violées, ne diffère pas beaucoup de l'état de nature, où chacun, au plus grand péril de sa vie, agit selon sa complexion propre. Paragraphe 3. De même que les vices des sujets, leur licence excessive et leur insoumission doivent être imputées à la cité, de même, en revanche, leur vertu, leur constante soumission aux lois, doivent être attribués à la vertu de la cité et à l'établissement d'un droit civil absolu, ainsi qu'il est manifeste par le paragraphe 15 du chapitre 2. C'est donc à bon droit qu'on fait honneur à la vertu d'Hannibal de ce que dans son armée il n'y a jamais eu de sédition. Paragraphe 4. Si, dans une cité, les sujets ne prennent pas les armes parce qu'ils sont sous l'empire de la terreur, on doit dire non que la paix y règne, mais plutôt que la guerre n'y règne pas. La paix, en effet, n'est pas la simple absence de guerre. Elle est une vertu qui a son origine dans la force d'âme, car l'obéissance, par le paragraphe 19 du chapitre 2, est une volonté constante de faire ce qui, suivant le droit commun de la cité, doit être fait. Une cité, faut-il dire, encore, où la paix est un effet de l'inertie des sujets conduits comme un troupeau et formés uniquement à la servitude, mérite le nom de solitude plutôt que celui de cité. Paragraphe 6. Il faut le noter encore, l'État que j'ai dit qui était institué à cette fin de faire régner la concorde doit être entendu comme institué par une population libre, non comme établi par droit de conquête sur une population vaincue. Sur une population libre, l'espoir exerce plus d'influence que la crainte. Sur une population soumise, par la force au contraire, c'est la crainte qui est le grand mobile, non l'espérance. De la première, on peut dire qu'elle a le culte de la vie. De la seconde, qu'elle cherche seulement à échapper à la mort. Celle-là, dis-je, s'efforce à vivre par elle-même. Celle-ci reçoit par contrainte la loi du vainqueur. C'est ce que nous exprimons en disant que l'une est esclave, l'autre libre. La fin d'un pouvoir acquis par le droit de la guerre est la domination, et celui qui l'exerce a des esclaves plutôt que des sujets. Et bien que, entre l'État créé par une population libre et celui dont l'origine est la conquête, il n'y ait point de différence essentielle, si nous avons égard à la notion générale de droit civil, il y a entre eux une grande diversité, et quant à la fin poursuivie, comme nous l'avons montré, et quant aux moyens dont chacun d'eux doit user pour se maintenir. Paragraphe 7. De quels moyens un prince omnipotent, dirigé par son appétit de domination, doit user pour établir et maintenir son pouvoir? Le très pénétrant Machiavel l'a montré abondamment. Mais quant à la fin qu'il a visée, elle n'apparaît pas très clairement. S'il s'en est proposé une bonne, ainsi qu'il est à espérer d'un homme sage, ce semble être de montrer de quelle imprudence la masse fait preuve alors qu'elle supprime un tyran, tandis qu'elle ne peut supprimer les causes qui font qu'un prince devient tyran. Mais qu'au contraire, plus le prince a de sujets de crainte, plus il y a de causes propres à faire de lui un tyran. Ainsi qu'il arrive, quand la multitude fait du prince un exemple et glorifie un attentat contre le souverain comme un haut fait. Peut-être Machiavel a-t-il voulu montrer aussi combien la population doit se garder de s'en remettre de son salut à un seul homme, qui, s'il n'est pas vain au point de se croire capable de plaire à tous, devra constamment craindre quelque embûche, et par là, se trouve contraint de veiller surtout à son propre salut, et au contraire, de tendre des pièges à la population, plutôt que de veiller sur elle. Et je suis d'autant plus disposée à juger ainsi que ce très habile auteur, qu'on s'accorde à le tenir pour un partisan constant de la liberté, et que, sur la façon dont il faut la conserver, il a donné des avis très salutaires.